Chers amis de Radio Courtoisie, bonjour. Au micro, l'abbé Alain Laurence, dans le cadre de ce libre journal des traditions, assisté efficacement par Axel, que je remercie. J'aurai la joie de recevoir cet après-midi Raphaël Kless, qui est la secrétaire des pèlerinages de tradition, qui nous parlera donc du pèlerinage à J-2, puisque nous sommes à 2 jours du départ. Ensuite, je recevrai le frère Jean-Yves, qui s'occupe entre autres du chant à Saint-Nicolas, aux côtés du maître de chapelle, qui est M. David Bilcock, et qui nous parlera du concert spirituel qui va être donné dans cette église, la messe de Saint-Christophe d'Antonio Lotti. Ça aura lieu fin mai, 30 entrées à mai. Et puis je recevrai un participant à l'université d'été Pax Iuris, Jean. Et c'est une université, comme le nom l'indique, qui est réservée aux juristes. Mais comme il n'est pas juriste, c'est intéressant, il va nous dire tout l'intérêt que des non-spécialistes peuvent trouver à cette université d'été. Raphaël Kless, bonjour.
Bonjour, monsieur l'abbé.
Alors, merci d'être là, alors que vous êtes vous-même certainement très prise ces jours-ci.
Oui, on peut le dire. En même temps, les 2 derniers jours, tout est déjà bouclé. Donc, c'est peut-être le repos avant le gros branle-bas combat qui commencera pour nous demain après-midi. Mais le jeudi et ce mercredi ont été plus calmes que les semaines passées, mais il y a encore du boulot.
Donc, vous partez sur Chartres, en voiture la veille au soir, vous couchez sur place pour pouvoir accueillir les pèlerins et les auditeurs de Radio Courtoisie qui deviendront les pèlerins du pèlerinage de Chartres-Paris, vous trouveront au camion accueil, c'est cela?
Exactement.
Avec une équipe retaillée qui prend toutes les inscriptions, s'il y en a. On s'est déjà inscrit, je pense, par Internet, mais je voyais que si on n'avait pas reçu son bracelet, on pouvait vous le demander. Vous aviez tout au camion.
Exactement. L'accueil est divisé en 2 parties. Et l'un des 2 stands d'accueil est dédié à donner des bracelets aux pèlerins qui sont inscrits, qu'on retrouve dans nos listings, mais qui n'ont pas reçu leur bracelet. Donc c'est un accueil qui est en contrebas de la cathédrale. Et pour le coup, sur le parvis de la cathédrale, c'est l'accueil principal. Où vous pouvez vous inscrire de zéro, quoi, complètement.
Voilà. Et alors, je voyais il n'y a pas très longtemps Jacques Lecomte, qui est le directeur de ce pèlerinage, aux côtés de M. l'abbé du Verger pour la partie spirituelle, bien sûr, lui qui s'occupe de la logistique, il me disait on retrouve les chiffres des années précédentes.
Oui, on a eu une petite frayeur au début des inscriptions parce qu'effectivement, les chiffres étaient un peu en retard par rapport à l'année dernière. Et donc, nous, on a assez vite pensé à l'effet des sacres de cet été. Et en fait, finalement, nous rapprochant de la date, les courbes se sont resserrées et ont fini par se rejoindre. Donc, on reste globalement sur les mêmes effectifs que l'an passé. Ouais.
Alors, on peut dire qu'il y a quelques milliers au départ et quelques milliers de plus à l'arrivée. En gros, Place Vauban, c'est 7-8 000. Au départ, on peut compter sur combien d'inscrits déjà. Ils ne sont peut-être pas tous au départ, mais sont inscrits pour le pèlerinage, pour vous.
Au départ, on peut compter, je vais vous dire un peu à la baisse pour être sûr de ne pas grossir les chiffres, on peut compter au moins 5 300 au départ. Et puis effectivement, après, à Vauban, à l'issue de la procession, on arrive à 8 000, 8 500. Quoi.
Et pour vous, c'est une première. C'est-à-dire que vous avez fait le pèlerinage jusqu'à présent de nombreuses fois, mais comme pèlerine.
Oui.
Et là, vous avez l'organisation et ça se passe bien. C'est amusant d'être de l'autre côté de la barrière.
C'est ça. J'ai passé la barrière et puis je l'ai passée pour 2 choses. Parce que en fait, on cumule un peu 2 casquettes qui sont celles du secrétariat, donc en fait c'est travail d'assistante de direction, et la direction de l'accueil qui est en fait complètement autre chose. Donc pendant les 3 jours du pèlerinage, j'abandonne le secrétariat puisque, autant vous dire que toutes les tâches de déclaration et tout ça ont déjà été faites, mais sur les 3 jours c'est du côté organisation, du côté bénévole, parce que ces 3 jours-là sont des jours bénévoles. Et on verra ce que ça donnera. C'est une première pour moi et je suis parachutée directrice d'un service, donc on verra ce que ça donne.
Alors vous dites, en amont, il y a quand même une longue préparation. On commence le pèlerinage, non pas le samedi matin, pour vous qui organisez aux côtés de Jacques Lecomte et de toute cette équipe de bénévoles, ce pèlerinage, c'est combien de mois en avance?
Alors moi, je commence à préparer le pèlerinage dès le mois de septembre, hein, parce qu'il y a plein de choses à faire en amont. L'édition des carnets et puis les déclarations en mairie, en préfecture qui doivent se faire bientôt. Mais pour être plus juste, la préparation en tant que telle, le vif du sujet, se lance en janvier avec la réunion des cadres et des régions où on commence à distribuer les tracts, etc. et où on se lance vraiment dans la préparation. Et ensuite, il y a une nouvelle étape qui est celle qui arriverait à M-1, M-1,5, où là, ça abat beaucoup de travail chaque jour pendant les 30 jours, quoi, ouais. Un peu plus.
Alors, on peut dire qu'il y a quelques nouveautés cette année, en particulier tous ceux qui ne pourraient pas venir au pèlerinage. En particulier, il y a des étrangers qui aimeraient s'unir par la prière, mais aussi voir et entendre un petit peu. Ça va être possible. Cette année, les trois messes vont être diffusées en direct.
Exactement. Oui, c'est la nouveauté de cette année pour toucher peut-être plus de monde, que les gens puissent profiter de la beauté de ces messes qui sont assez particulières par leur ferveur. Parce que la première lance un pèlerinage, la seconde, il y a déjà quelques kilomètres dans les pattes, et la troisième arrive à l'issue d'une grande procession qui a traversé Paris. Donc, il y a une ferveur très particulière et très propre à chacune de ces messes. Et donc, cette année, elles seront diffusées en direct donc sur les canaux qu'on connaît bien sur YouTube. Elle sera également accessible sur la Porte Latine, etc. Pour pouvoir permettre à tous, même ceux qui ne le peuvent pas en présence, de participer à la ferveur très particulière de ces messes.
Alors, on peut dire que vous-même, l'association Pèlerinage de Tradition, vous avez un site dont on va donner l'adresse, et ce site lui-même donne toutes les indications, c'est-à-dire que sur le site, il y a le lien pour aller sur la messe du samedi matin devant la cathédrale de Chartres, du dimanche après-midi aux alentours de Villepreux, et puis à Vauban devant les Invalides.
Exactement, les liens seront en ligne sur le site, ouais.
Et alors, quelle est votre adresse, l'adresse de votre site? Qu'est-ce qu'on fait pour... Sur un moteur de recherche, on tape tout simplement?
On tape tout simplement pèlerinage au pluriel de tradition. Et là, vous tombez sur le site où tout est indiqué.
Donc ça, c'est la première nouveauté. Alors, il y en a une deuxième qui n'était pas prévisible, mais maintenant on le sait, il va faire très chaud.
Oui, alors...
C'est la météo qui nous le dit.
Exactement. Nous, on avait un petit peu peur depuis le début de l'année, parce que c'est vrai que souvent, les week-ends fin mai sont beaucoup plus capricieux que les week-ends du mois de juin. Le temps est toujours beaucoup plus incertain. On témoigne d'ailleurs les 10 derniers jours de pluie de froid qu'on vient de passer. Donc nous, on avait plutôt peur de la pluie. Et d'ailleurs, bien souvent, quand le thème du pèlerinage touche aux vocations, il y a une pluie de grâce, mais une pluie aussi qui tombe sur le pèlerinage. Donc, les statistiques nous faisaient croire qu'on aurait affaire à des nuages menaçants. Et finalement, là, sur la météo, on est sur 30 degrés chaque jour. Grand soleil. Donc ça va être finalement une autre configuration.
Donc, vous parliez de ferveur spirituelle tout à l'heure. On va aussi même parler de ferveur physique.
Ah oui,
qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que quand on a comme ça la responsabilité, c'est votre cas de 5000 et puis ça grandit, et puis à Place Vauban, vous arrivez à 8000, 8005. Qu'est-ce que vous prenez comme disposition?
Alors, les dispositions ont été transmises aux pèlerins via le site, via la newsletter et les réseaux sociaux.
Vous voulez dire, bien sûr, la lettre d'information.
Exactement. Je mettrai 1 euro dans le coffre.
Merci beaucoup pour lui.
Donc, ces consignes ont été diffusées. Il y a évidemment les consignes de base qui sont de se protéger du soleil et de la chaleur avec des couvre-chefs, la crème solaire, des vêtements adaptés, etc. Ne pas oublier de boire, on le dit tout le temps au pèlerinage, mais de boire avant d'avoir soif parce qu'on s'en rend compte trop tard quand on est déshydraté, et de manger des aliments salés qui permettent de retenir l'eau. Éviter évidemment l'automédication par anti-inflammatoire. se reposer autant que possible et puis être attentif aux plus fragiles et évidemment demander conseil aux équipes médicales qui jalonnent tout le trajet sur les SIRA et qui sont toujours disponibles à Croix-Rouge et puis le service médical interne du pèlerinage.
Alors effectivement, la Croix-Rouge vous accompagne avec les camions, les ambulances, tout ce qu'il faut. Vous avez aussi donc vos médecins, et il y a même un médecin pour les enfants, une équipe pour le chapitre enfants,
oui.
Parce que ce sont eux qui sont quand même aussi particulièrement vulnérables.
Oui.
Et puis vous avez... Et avec ça, grâce à Dieu, ça se passe bien, il n'y a pas d'incident majeur.
Pas d'incident majeur,
ouais.
On prie pour que ça dure, pas d'incident majeur, oui.
Et vous avez aussi une équipe d'infirmières voilées, je ne me trompe pas.
Exactement, les Sœurs de la Fraternité viennent chaque année pour rendre la marche plus agréable aux pèlerins. Donc vous les retrouvez sur toutes les pauses, elles sont sur leur chaise et s'occupent bien souvent des pieds endoloris des pèlerins.
Et là, de fil en aiguille,
exactement.
elles vous remettent d'aplomb. Alors, vous dites, il y a les Sœurs de la Fraternité et il y a aussi les Sœurs du Raflet, elles sont en blanc,
oui.
Mais elles sont infirmières et elles sont là, efficaces,
oui.
et maternelles.
Exactement, oui.
Alors pour ceux qui sont quand même plus handicapés, c'est-à-dire qui n'ont pas simplement des ampoules ou des crampes, vous avez aussi un accueil tout particulier. Il y a un chapitre spécial pour ces personnes qui sont en fauteuil.
Depuis quelques années, ouais, le chapitre Sainte-Lydvine, qui accueille donc des personnes en situation de handicap et qui ont un trajet particulier, donc qui est carrossable autant que possible et qui est le trajet qui correspond à celui des enfants, donc c'est moins long que les adultes. Et puis, il y a beaucoup d'encadrants qui accompagnent ce chapitre et qui, parfois, il n'est pas rare de voir des messieurs porter les fauteuils à des endroits où on pensait que c'était carrossable et en fait, la pluie de la semaine d'avant a rendu le terrain impraticable. Donc, des bénévoles qui se donnent avec un grand, grand dévouement pour permettre à ces personnes en situation de handicap de faire leur pèlerinage à leur façon.
Alors, si on entre un petit peu dans le programme des 3 jours, on peut dire, surtout ceux qui ne pourront pas venir et qui voudront suivre les messes, le premier rendez-vous pour la messe sur le parvis de la cathédrale, c'est à quelle heure?
La messe est à 7h45 et le départ de la colonne est à 9h30.
Donc, on peut avoir là, pour la messe pontificale qui sera célébrée cette année par...
Par Monseigneur Felet.
Et ça a lieu...
Et ça a lieu donc le dimanche au bivouac du Trou Moreau à 18h.
Et puis, place Vauban, donc tout à fait à côté de la basilique, la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Là, c'est à quelle heure? Avant la dispersion du pèlerinage, on se retrouve?
La messe est à 16h30.
D'accord. Donc, bon, il faut s'inscrire, en tout cas, sur son ordinateur. Il faut se mettre là. Enfin, quand je dis s'inscrire, non, il suffit simplement de se connecter et on a accès à tout.
Oui.
Et alors, pour ceux qui voudraient un peu plus, c'est-à-dire pas simplement voir les messes et s'unir d'attention par la prière, ceux qui voudraient accompagner le pèlerinage, ça aussi c'est prévu. Ils ne marchent pas, ils ne sont pas sur place, mais ils font le pèlerinage en priant. Qu'est-ce que c'est cette possibilité-là?
Alors, ce sont les membres priants. D'ailleurs, cette année, les chiffres ont explosé. La colonne des membres priants a plus que doublé par rapport à l'année dernière. Donc c'est effectivement un chapitre de personnes n'ayant pas la possibilité de marcher qui vont venir pendant les 3 jours accompagner de leurs prières les pèlerins et qui peuvent également confier une ou plusieurs intentions de prière. Et ces intentions sont encastrées dans la croix du pèlerinage par impression papier, tout bêtement. Et donc ce sont des intentions qui sont portées tout au long du pèlerinage dans la croix qui est portée, vous savez, par le chapitre de tête qui tourne régulièrement. Et donc les intentions sont posées dans cette croix et donc les pèlerins, parfois même sans le savoir, prient aux intentions de ces membres priants.
Donc il y en a qui marchent pour ceux qui ne peuvent pas marcher et il y a ceux qui prient pour ceux qui marchent pour eux, c'est
exactement,
ça?
Exactement, oui.
Donc, c'est la communion des saints, c'est formidable.
Exactement, oui.
Donc, tout est très, très bien organisé, tout est prévu. Au fond, personne n'est tenu à l'écart. On ne peut pas dire, Moi, je ne peux pas participer au périllage. On peut d'une façon ou d'une autre y arriver.
Aucune raison de ne pas le faire.
Voilà.
Il y a une place pour tout le monde.
Et alors, pour ceux qui, par exemple, ne seraient pas disponibles samedi pour des raisons familiales, s'ils ne sont pas inscrits au départ, c'est fini pour eux, la grâce est passée, elle ne repassera plus. Ou est-ce que vous acceptez des pèlerins de la 11e heure, 11e heure, c'est-à-dire même à Vauban? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire en cours de pèlerinage?
Ah oui, il est toujours possible de s'inscrire donc à la tente accueil. Il est toujours possible de s'inscrire en cours de pèlerinage et de rejoindre la colonne donc sur le site internet, dans la case info pratique. Vous pourrez trouver un onglet qui s'appelle « Nous rejoindre ». Et là, sont détaillées toutes les navettes qui permettent aux pèlerins de relier la colonne depuis une gare. Enfin, c'est plutôt relier un bivouac ou une pause déjeuner. Mais depuis les gares, il y a le service transport du pèlerinage assure des navettes. Donc, ce sont à des heures particulières. Tout ça est indiqué sur le site. Et il est toujours possible de rejoindre le pèlerinage en cours de route, de s'inscrire en cours de route, ou bien même pour ceux qui se sont inscrits à l'avance, il est possible de ne sélectionner que 2 jours ou qu'une journée en fonction de ce que vous pouvez faire.
Par exemple, je vois ceux qui seraient libres le lundi et qui voudraient beaucoup apporter leur témoignage public dans cette procession, parce que à partir de midi, quand on se retrouve au Bois de Boulogne, qu'on traverse Paris, ça n'est pas qu'un pèlerinage, c'est aussi une procession, bannière en tête, chant,
oui.
Cantique. Et là, c'est possible aussi de rejoindre...
C'est tout à fait possible de rejoindre à Vauban. Donc par exemple, si vous vous êtes... à Vauban, à Longchamp. Si vous vous êtes inscrit sur le site ou par le bulletin, vous avez lundi après-midi. Donc ça correspond à cette procession. Et d'ailleurs, nombreux sont les pèlerins, pour la plupart parisiens ou de région parisienne, qui rejoignent à ce moment-là, mais on grossit vraiment la colonne à partir de l'hippodrome de Longchamp jusqu'à la place Vauban.
Alors vous disiez, c'était un lapsus, mais c'est assez intéressant, vous parliez de Vauban pour Longchamp.
Oui.
Si on a des gens qui se disent « non, c'est trop fatigant pour moi, il fera 30, je ne peux pas », est-ce qu'ils peuvent prendre le métro, descendre à École militaire, parce que c'est à côté,
oui.
et ils peuvent avoir une place sur le grand terre-plein, la grande esplanade devant c'est possible aussi, ils peuvent assister à la messe.
C'est tout à fait possible pour des raisons évidemment de sécurité. Le dispositif de la messe est complètement clos, donc sans bracelet, il est impossible de rentrer dans l'enceinte. Mais en revanche, il suffit encore une fois de passer par l'accueil. Cette fois-ci, on ne vous demandera pas d'inscription, on ne vous demandera rien de plus que de savoir pourquoi vous venez. Et on vous donnera un bracelet dit visiteur, qui est d'une couleur différente et qui donne tout à fait accès à la messe et de manière tout à fait gratuite.
Et là, vous dites qu'effectivement, il y a des conséquences. On sait que Paris est encore sous le plan Vigipirate, donc vous faites attention. Et il y a d'ailleurs, tout au long de ce pèlerinage, des forces ou de la gendarmerie quand on est en province, ou de la police quand on est sur Paris, parce
oui.
qu'il faut quand même être en sécurité.
Et il y a la régulation interne au pèlerinage qui s'occupe, je dirais peut-être plutôt de la sécurité... Vous voyez, routière, quand on longe des routes, etc.
Quand on traverse. Pour stopper la circulation.
Exactement, mais ensuite, pour les questions plutôt vraiment de sécurité du dispositif, on est très assisté par les forces de l'ordre qui répondent toujours à nos sollicitations. Et puis après, les dispositifs sont vus, revus et re-revus par les préfectures. Pour être sûr que tout soit le plus, j'allais dire safe, je cherche l'autre mot pour pas avoir à mettre un euro, le plus sécurisant et sécurisé possible.
Alors, vous êtes, vous le disiez tout à l'heure, vous amenez à avoir des contacts justement avec les mairies, parce qu'au fond, chaque fois que vous traversez le territoire d'une commune, il vous faut une autorisation. Enfin, vous c'est pas un pèlerinage sauvage.
Non, pas du tout. Alors, on demande des autorisations plus ou moins importantes, parce qu'il y a des communes qu'on ne fait que traverser. Donc, à ce moment-là, c'est plutôt on les prévient que nous passons. Ensuite, il y a des communes sur lesquelles on fait des haltes, des communes sur lesquelles on va aller puiser de l'eau pour nos installations, etc. Donc, celle-ci, on fait une vraie demande et on a des retours et des contacts. Et ensuite, il y a les déclarations en préfecture qu'on est de toute façon obligé de faire parce que, comme vous le disiez, ce n'est pas une manifestation sauvage. Donc oui, on est en contact avec toutes les autorités locales qu'on traverse et qui jusqu'à présent nous ont toujours reçus très gentiment et ont d'ailleurs facilité l'organisation bien souvent.
Et je crois que d'ailleurs, ça doit être édifiant pour les communes traversées, de voir tous ces enfants, tous ces jeunes, et tous ces pèlerins généreux. Enfin, ça n'est pas une manifestation de casseurs. Enfin,
Non,
à Paris, vous ne démontez aucune cabine,
oui.
abribus ou quoi que ce soit.
Non, non, à Paris, il n'y a pas de dégâts. On a même des personnes qui passent après pour nettoyer si jamais une bouteille d'eau aurait malencontreusement été laissée tomber par terre. Donc non, non, tout est bien fait. Très rarement, très, très rarement des plaintes sur notre passage. Et puis, par exemple, à Paris, vous avez, il me semble que c'est le MJCF, mais alors peut-être que c'est plus large, mais je crois que ce sont eux qui vont aller voir les gens qui voient passer
Les
notre
badauds.
procession, exactement, et leur explique un peu à quoi ça correspond, leur distribue des médailles miraculeuses, parce qu'il y a vous savez, une grande bannière au devant de la procession qui avec écrit pèlerinage de Chartres à Paris et tout ça. Donc bien souvent les gens se demandent à quoi ça correspond et heureusement ces personnes sillonnent les trottoirs qui encadrent notre procession pour informer les passants qui se posent beaucoup de questions sur notre
Et alors, vous
passage.
avez des badauds qui deviennent des pèlerins, il y en a qui se disent, ah ben, on vous suit, on peut.
Sûrement. Il y en a qui suivent sur quelques mètres, ça c'est sûr, qui voient un peu jusqu'où on va et ce qu'on chante, etc. Et sûrement que la grâce en touche quelques-uns qui rejoignent le cortège et ne le lâchent plus.
Alors, ce qui doit être sympathique aussi, c'est que dans le pèlerinage, qui est international, il faut le dire, vous avez donc des germanophones, des hispanophones. Vous allez nous faire le détail tout à l'heure. Et donc, ils peuvent, eux, voir des touristes de leur langue, de leur pays,
Exactement,
et
oui,
ils
c'est
peuvent
vrai.
leur dire ce qu'ils font,
Oui,
pourquoi
c'est
ils font
vrai.
ça. Et ça doit être aussi
Oui, c'est
très
vrai.
encourageant,
Oui.
sans aucun doute. Qu'est-ce que vous avez comme. Donc, vous dites, on arrive à 8000, 8500 à Vauban. Quelles sont les nationalités représentées? Vous-même, bien sûr, vous parlez toutes ces langues.
Ah oui, couramment. Et bon, évidemment, les Français sont en écrasante majorité. Mais ensuite, on a beaucoup d'anglo-saxons, parfois des Américains qui viennent. Cette année, je pense qu'il y en a un petit peu moins. Toujours beaucoup de monde venu de la Belgique, enfin du Benelux en fait, des Suisses beaucoup. Cette année, on a un chapitre polonais. Il y aura également des pèlerins venus de Zagreb. Après, il y a un peu des pèlerins isolés, donc qui sont inscrits dans d'autres chapitres, mais qui viennent de plus loin encore. Après, l'Espagne, évidemment, l'Italie.
Et en général, vous parliez de pèlerins un peu isolés, ils sont très réconfortés de s'apercevoir que eux, qui sont ultra minoritaires peut-être à Zagreb, et qui se retrouvent là au milieu de 8000 personnes qui chantent, qui prient.
C'est tout l'avantage du latin. C'est que pendant les messes, on parle tous la même langue.
Et là, oui, ça, tous ces Polonais qui.
Eh bien, ils sont pas perdus.
Et voilà.
Ils peuvent suivre les mêmes textes et pour peu que Monseigneur Felet traduise son sermon.
Oui, c'est ça, parce que lui parle facilement 4-5 langues, oui.
Donc, tout le monde y trouvera son compte.
Donc ça, c'est.
Et en fait, oui, c'est ça, par la messe et la ferveur, même si on parle pas la même langue, on partage quelque chose de commun. Et je pense qu'effectivement, c'est réconfortant pour ces personnes qui joignent notre marche, quoi.
Alors, je vais vous poser la question que je posais à votre prédécesseur. Est-ce que vous avez des besoins particuliers ou pas? Je le dis parce qu'une fois, il nous manquait un train, ou plutôt un conducteur de train. On a passé le message à la radio et on en a eu trois. Alors, vous n'avez pas de problème de train, si quand même un peu. C'est-à-dire
Oui.
que la SNCF profite de la Pentecôte pour faire des travaux. Donc, au départ de Paris, ça va être un petit peu plus difficile que les autres années. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Préciser juste,
Alors
tout est organisé, mais comment ça se passe?
cette année, c'est un petit peu compliqué effectivement parce qu'il n'y a pas de train entre Paris et Versailles, entre Paris et Chartres, pardon. Mais donc, l'organisation du pèlerinage a mis en place des cars qui partent de la gare routière de Versailles-Chantier.
Parce qu'on peut aller de Paris
Exactement.
À Versailles-Chantier.
Vous pouvez aller en RER, enfin en transport en commun, de Paris à Versailles-Chantier. Et nous avons prévu des cars qui partent de la gare routière de Versailles-Chantier pour rejoindre Chartres. Ces cars sont à départ échelonné entre 6h15 et 6h45. Il n'y a pas de réservation. Nous, on avait lancé des sondages pour savoir de quel ordre de grandeur il fallait qu'on prévoie pour le nombre de places. Donc, il n'y a pas de réservation et les premiers pèlerins arrivés monteront dans les premiers bus et ainsi de suite jusqu'au dernier départ à 6h45.
Et tout ça est expliqué sur votre site, il n'y a pas à
s'inquiéter. Et tout ça est expliqué.
Dont on redonne d'ailleurs l'adresse sur un moteur de recherche, qu'est-ce qu'on tape ?
On tape pèlerinage au pluriel de tradition. Et pour avoir ces informations, il vous suffit d'aller dans l'onglet consigne du pèlerinage et c'est écrit en rouge. C'est pas manquable, quoi.
Ouais, donc même cet aspect-là. Sinon, vous-même, vous n'avez pas de besoin particulier. Tout est parfaitement...
Non. Cette fois-ci, à 2 jours du pèlerinage, les équipes sont complètes.
Alors, qu'est-ce que vous souhaitez ? On peut dire, n'est-ce pas, que le thème de cette année, vous l'avez rappelé au début de notre entretien, ce sont les vocations, envoyer des ouvriers à votre moisson. Moisson, c'est-à-dire aussi mission. Ce qu'on peut souhaiter, c'est beaucoup, beaucoup de vocations à l'issue de ce pèlerinage.
Exactement. Beaucoup de prêtres, de saints prêtres, des religieuses, des religieux, dont on a cruellement besoin.
C'est vrai. Parce qu'effectivement, il y a quantité de paroisses où il n'y a plus beaucoup de prêtres. Donc au fond, c'est le pèlerinage de la re-christianisation.
Exactement.
De la reconquête.
On saura pourquoi offrir les 30 degrés qui taperont sur le haut du crâne.
Eh bien, un grand merci en tout cas. Je redis donc aux auditeurs que si on veut d'autres renseignements, c'est très simple. On tape pèlerinage au pluriel attaché de tradition au singulier bien sûr, .com et on arrive chez vous.
Exactement, merci monsieur l'abbé.
Très bien, bon pèlerinage, ou le tria comme on dit. À bientôt. Chers amis, je vais maintenant vous demander d'écouter attentivement le message qui suit.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Donc, merci d'avance, c'est bien le mot que je veux moi aussi prononcer. Parce que nous avons besoin de vous, parce que la radio ne vit pas sans vous, parce que la radio dépend entièrement de vous. Donc merci par avance de toute cette générosité. Et puis j'en profite aussi pour vous donner quelques petites informations avant de recevoir notre invité suivant. C'est le prochain numéro de D'ici, donc la revue dont je m'occupe. Elle va paraître la semaine prochaine, elle contiendra l'entretien qu'a accordé le supérieur général de la fraternité Saint-Pédis à la veille des sacres du 1er juillet. Ça s'intitule cet entretien « Qui déchire la tunique du Christ ?». Ensuite, vous verrez aussi dans ce numéro l'avis d'un canoniste sur une éventuelle excommunication, et ce canoniste dit que de fait, ça ne sera pas une excommunication valide. Donc vous pouvez voir cela, je peux vous donner simplement le titre de l'éditorial en avant-première, vous devinerez un petit peu, je ne vous donne pas plus d'explications que cela, ça s'intitule « Tapis rouge pour une archevêque » entre guillemets et « Carton rouge pour un prêtre ». Je vous laisse deviner qui est l'archevêque au féminin et qui est le prêtre catholique. Vous verrez ça dans l'éditorial. Alors, pour avoir D'ici, c'est très simple, il suffit d'écrire et en s'abonnant, c'est 40 euros pour un numéro par mois et on adresse son chèque à l'ordre de Civiroma, C-I-V-I-R-O-M-A. 33 rue Galande, G-A-L-A-N-D-E, 75-005. Mais si vous n'avez pas le temps d'envoyer un courrier, vous pouvez, à la même adresse, avoir immédiatement le numéro dont je vous parle. Dès la semaine prochaine, il y sera. C'est au rez-de-chaussée. C'était la librairie des comptoirs du comptoir des monastères, qui est dépositaire des deux revues que sont D'ici et Nouvelles de Chrétienté. Donc vous pouvez, chaque fois que le numéro sort, demander au responsable de la librairie un exemplaire. Vous l'avez immédiatement, contre des sommes très très raisonnables, puisque pour D'ici c'est 3,50 € et pour Nouvelles de Chrétienté, qui paraît tous les deux mois et qui est abondamment illustré, c'est 4 €. Et puis alors, j'en profite pour vous dire que à cette librairie du comptoir des monastères, il y aura 2 dédicaces le samedi 13 juin de 15h à 18h. Tout d'abord, Jacques de Villiers, qui est le petit-fils de Philippe de Villiers, qui signera son 2e roman historique, L'Affaire Lombarde, qui est édité chez Fayard. Et également Laurence Trochu, qui est députée au Parlement européen, qui, elle, signera son livre « Maman, j'ai vu Jésus », édité chez Via Romana. Donc, le samedi 13, de 15h à 18h, Jacques de Villiers et Laurence Trochu. Les horaires de la librairie, vous les connaissez, c'est tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Le lundi, c'est simplement l'après-midi, de 14h à 18h30, mais tous les jours, c'est de 10h à 13h, et ensuite de 14h à 18h30, et vous serez très bien accueillis par Louis, que je salue au passage, puisqu'il nous écoute. Mon cher frère, bonjour.
Bonjour, monsieur l'abbé.
Vous allez vous approcher du micro pour qu'on vous entende bien. Je suis très heureux de vous recevoir. Les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont paroissiens de Saint-Nicolas vous connaissent, même ceux qui ne sont pas paroissiens de façon directe, mais qui vous suivent sur la chaîne YouTube vous voient, parce que avant une messe, c'est vous qu'on voit. Après une messe, c'est vous qu'on voit, puisque vous installez l'autel et vous désinstallez. Vous êtes à la sacristie de Saint-Nicolas. Depuis combien d'années ?
Depuis 7 ans.
Ça fait 7 ans. Donc, vous avez l'âge de sagesse, c'est parfait. Et alors, je vais être un petit peu plus complet encore. On vous voit aussi au chant, parce que vous êtes, je vais le dire, vous êtes le fils de Bernard Gélinot, que j'ai reçu la fois dernière, et qui m'avait dit qu'il avait une famille de musiciens, et vous en êtes la preuve. Il y avait votre frère Louis-Marie, qui était dans le studio, et maintenant, vous êtes là. Et vous êtes musicien.
Oui.
Quel est votre instrument ?
Alors, je joue de l'alto.
Oui.
J'ai étudié l'alto dans l'école de musique que dirigeait mon père pendant une trentaine d'années, ce qui fait qu'on a tous été, tous les enfants, les 11 enfants que nous sommes dans la famille, nous avons tous été... au moins une formation musicale, au moins le minimum du bagage. En tout cas, on a tous pratiqué et un instrument et le chant aussi.
Et c'est pour ça que l'abbé Bilcock, qui est le maître de chapelle de Saint-Nicolas, vous a désigné pour venir parler du prochain concert spirituel qui va être donné le samedi 30 et le dimanche 31. Avec la messe de Saint-Christophe d'Antonio Lotti, dont on va parler dans quelques instants. Mais je reviens une petite seconde sur votre parcours personnel. On vous voit aussi aux fleurs, et ça c'est en référence à votre vie professionnelle. Avant d'entrer dans la Fraternité Saint-Pédis, de devenir religieux, vous étiez vous-même dans la végétation, si j'ose dire.
Oui, en fait, j'ai passé un bac en maraîchage horticulture. Et donc, à travers ce bac, un bac professionnel, j'ai pu pratiquer et la production des légumes et la production des fleurs et travailler, m'initier un petit peu à la fleur coupée, en effet.
C'est intéressant. Donc, je veux dire que tout ce que vous avez fait avant, ce que vous avez reçu de vos parents, ce que vous avez fait dans vos études, tout ça sert, parce qu'au fond, un frère de la fraternité, c'est quelqu'un qui est polyvalent.
Oui, tout à fait. On cherche à être le plus polyvalent possible. Et donc, en effet, tout ce qu'on a eu comme formation avant, nos supérieurs essayent de les utiliser aussi bien que possible, d'une manière ou d'une autre. Et de fait, quand je suis arrivé à Saint-Nicolas, c'était un peu le besoin d'épauler l'abbé Bilcock au niveau du chant, du moins d'être présent sans être forcément second chef, hein, c'est pas ça la question, mais plutôt de l'épauler, de pouvoir qu'il puisse être sûr de compter sur moi pour les chants des... Plutôt le chant grégorien, donc on en parlera moins puisque c'est pas le sujet du concert, mais voilà, pour le chant des messes et des vêpres, autre que la messe de 10h30, où c'est vraiment lui qui gère ça.
Ah, très bien. Alors, pour terminer quand même sur votre curriculum vitae, on vous voit aussi au catéchisme, parce que vous êtes éducateur aussi, vous allez à l'école de la rue du Petit Musc, où là, vous occupez des enfants, vous êtes au catéchisme à Saint-Nicolas aussi, donc vous êtes...
Oui, tout à fait, oui.
Ça, c'est ce que vous aviez reçu pendant certainement vos études au séminaire de Flavigny, puisque on peut le dire, les frères font leur noviciat à Flavigny. Et donc là, ça aussi, tout sert. Il n'y a pas de talent enfoui. Les frères doivent pouvoir tout faire et aider. C'était d'ailleurs la volonté de notre fondateur, on se dit, le fait que les frères soient vraiment de précieux auxiliaires pour les prêtres dans leur ministère. Et donc, vous êtes un précieux auxiliaire en particulier, et c'est ce qui vous amène ici, de l'abbé Bilcock.
Oui.
C'est ça.
Oui, j'essaye du mieux que je peux.
Alors, dites-nous un petit peu, déjà avant qu'on entre dans ce concert, dites-nous un petit peu, il va être interprété par le chœur de Saint-Nicolas. Qu'est-ce que c'est que ce chœur on se doute que c'est l'abbé Bilcock qui doit le diriger, mais qu'est-ce qu'il assure? Quand est-ce qu'on peut l'entendre dans la paroisse? Est-ce qu'il a beaucoup de concerts? Quel est son répertoire? Et puis, il y a quand même des instrumentistes. Dites-nous tout. On veut tout savoir. Voilà.
Alors, le chœur de Saint-Nicolas, il a pour vocation d'assurer la messe de 10h30 du dimanche. Ça, c'est vraiment sa fonction première. Donc, il assure les messes de tous les dimanches, sauf période de vacances scolaires, plutôt les vacances Noël-Pâques, hein, pas forcément les petites vacances février-Toussaint. Et également, un dimanche par mois, l'abbé Bilcock libère, si vous voulez, les choristes, de manière à ce qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, aller ailleurs, organiser un week-end avec des amis ou quoi. Donc, il y a ce petit soulagement qui leur accordait une fois par mois, mais sinon, c'est vraiment assurer les messes du dimanche à 10h30, la grand-messe qui est d'ailleurs retransmise sur... Radio Courtoisie, si je me trompe.
Non, effectivement, on peut donc aussi vous entendre. Donc, c'est en direct, donc c'est à 10h30, l'heure à laquelle commence la messe. Très bien.
Et puis, le concert, c'est tous les deux ans. Monsieur l'abbé Bilcock, en tout cas, depuis qu'il a repris le chœur en 2019, a établi ce rythme, ce qui permet de ne pas aller au détriment des messes du dimanche, puisque la fonction, le but premier, c'est quand même d'assurer des belles messes le dimanche. Et un concert, c'est aussi du travail. Donc, on pourra en reparler, mais c'est aussi du travail, et donc il faut allier les deux aspects et ne pas aller au détriment des messes du dimanche, et puis soigner quand même la préparation d'un concert pour pas que ce soit non plus bâclé.
Et alors là, vous avez combien de choristes?
Alors là, nous avons une bonne quarantaine de choristes, hein, 43 choristes actuellement.
Et vous avez toutes les voix, tous les pupitres sont garnis?
Oui, alors plus ou moins, c'est vrai que les basses sont un peu moins fournies.
C'est toujours le cas.
Voilà, mais l'abbé Bilcock lance un appel aux basses éventuelles. Hein. Alors attention, il faut quand même avoir une certaine compétence, au moins savoir déchiffrer à peu près, même si un guide audio qui permet d'aider à déchiffrer les pièces. Et puis l'abbé Bilcock auditionne ceux qui se présentent. Également, quelques sopranes, c'est toujours utile.
D'accord. Bon, ben ça, c'est intéressant. Donc, au fond, vous faites une offre de service, là, si on veut.
On en profite.
Très, très bien. Vous avez tout à fait raison, tout à fait raison. Et alors, le répertoire, la messe, autant la messe de 9h, elle est en grégorien.
Oui.
À 10h30, c'est polyphonique.
Alors, à 10h30, il y a le chant grégorien qui est chanté en grande partie par les hommes, mais l'abbé Bilcock essaye toujours d'investir de plus en plus les femmes aussi dans les parties propres, même du grégorien. Et donc, c'est pas rare qu'on ait l'introïte ou la communion chantée par et les hommes et les femmes. Sinon, on a des polyphonies. Alors, c'est deux ou trois polyphonies chaque dimanche. Donc, si vous voulez, j'ai fait un peu le calcul sur l'année. Ça fait quand même une centaine de polyphonies qu'on doit travailler, qui sont toutes différentes. Hein. En général, M. l'abbé Bilcock prévoit dans le programme qu'il n'y ait pas deux fois la même polyphonie dans l'année. Même si, d'une année sur l'autre, on va retrouver les mêmes polyphonies. Une fois que le choriste a fait une année entière, il a déjà un bon bagage. On a compté à peu près 160 polyphonies dans le répertoire habituel de la chorale. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines polyphonies qui passent que tous les deux ans, ce qui permet quand même de diversifier un petit peu le répertoire. Donc, c'est assez intensif. C'est un répertoire très varié. Hein, ça brasse toutes les périodes. Hein. La polyphonie la plus ancienne, c'est au salutariste de Delarue du 15e siècle, et on va jusqu'à des compositions du 21e siècle, Monsieur Sio qui nous fait quelques compositions pour l'occasion. Donc on en a chanté deux polyphonies, une Puer Natus in Bethléem pour Noël, et puis une autre, l'Alléluia de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est le deuxième Alléluia, qui nous a arrangé en polyphonie.
Monsieur Sio, on peut le redire, parce que j'avais passé les disques, il est de côté de l'abbé Perron, à l'école Saint-Joseph des Carmes, et chaque fois qu'il y a la sortie d'un disque, on est certain qu'il est appliqué parce que...
Oui, il est très musicien, et il aide en effet l'école de Saint-Joseph des Carmes, et puis voilà, c'est quelqu'un qui est sur le Massif Central, mais qui est très investi auprès des chapelles de la Fraternité, etc.
D'accord, et alors, puisque vous avez quand même proposé... des musiciens qui sachent bien déchiffrer, comme vous le disiez, peut-être de vous rejoindre, c'est très contraignant. Alors, à la veille d'un concert, j'imagine que oui, vous ne devez pas cesser de répéter, mais de façon habituelle, pour assurer ces pièces polyphoniques dont vous nous parlez, quand même un répertoire assez vaste, oui. C'est une répétition tous les combien ? Alors, ça dure combien de temps ?
C'est tous les jeudis soirs, la répétition. Elle commence à 19h15, elle finit à 21h, hein. Avec une petite pause au milieu, donc ça fait à peu près 1h30 de répétition, dans une ambiance très conviviale, surtout à la pause, des talents culinaires se révèlent dans les petits encas, puisque c'est en général, certains choristes aiment bien assister à la messe de 18h30, donc ce qui fait que ça enchaîne derrière la messe, et donc ils n'ont pas le temps de prendre.
Et c'est là que les sopranes et les alti montrent qu'elles savent cuisiner, il y a des...
Oui,
c'est
oui.
Ça. Peut-être pas beaucoup de ténors et de basses qui apportent des gâteaux, ou alors ils ont acheté.
Ça dépend, il y a aussi quelques ténors qui sont bons cuisiniers. Mais oui, voilà, donc c'est 1h30 de répétition finalement tous les jeudis soirs, et une demi-heure le dimanche avant la messe, mais la demi-heure avant la messe le dimanche, c'est plutôt un échauffement, revoir une fois les polyphonies, et... revoir le grégorien également, les parties grégoriennes. Donc, c'est ce jeudi soir. Et en réalité, même pour le concert, en tout cas pour cette fois-ci, on arrive à se contenter de ces répétitions, puisque la première pièce que nous avons commencé à travailler pour ce concert, nous l'avons travaillée en septembre 2024. Donc, il y a 2 ans. Du moins, presque 2 ans.
Voilà. Et alors, vous me disiez, quand nous préparions cette émission, que... les auditeurs de Radio Courtoisie et ceux qui vont suivre la messe sur la chaîne YouTube pourront avoir un petit aperçu. Vous allez interpréter quelque chose pendant la messe
Oui, au pèlerinage de Pentecôte, vous voulez dire Place Vauban. Cette année, il a été demandé que ce soit le chœur de Saint-Nicolas qui chante, c'est la partie polyphonique. Hein. La partie grégorienne sera chantée par des enfants des écoles. Mais pour la partie polyphonique, ce sera donc le chœur de Saint-Nicolas qui chantera. Et en effet, nous chanterons à cette occasion une pièce de Loti que les choristes, les auditeurs, pourront entendre lors du concert, s'ils sont bien attentifs.
En avant-première.
Voilà.
Et alors, c'est bien. Donc, si on veut faire connaissance de ce chœur, il faut être tous place Vauban, voilà, et on est sûr, bien sûr, il y a d'abord la messe, mais il y a aussi ce chœur, et on pourra même en plus entendre cette une partie du concert. Alors justement, parlez-nous un petit peu d'Antonio Loti, parce que moi j'aurais dit aux auditeurs, voilà, ils vont offrir une pièce d'un compositeur italien, Antonio, je remarquais, ils auraient tous dit Vivaldi, mais pas du tout. Il est quand même un peu moins connu que Vivaldi.
Tout à fait. Moins connu que Vivaldi. C'est un compositeur de l'époque baroque, mais un compositeur vénitien. Et en fait, il n'a pas. Il a été en Allemagne 2 reprises dans sa vie, a priori, mais peu de temps. Et il n'est jamais allé à Rome. Donc, il n'est pas très connu parce que, du fait qu'il soit resté très cantonné. D'ailleurs, assez surprenant, on pourrait dire une vocation tardive, puisque bon, il est né en 1667, c'est d'ailleurs la date de la bénédiction de la première partie de l'église de Saint-Nicolas du Chardonnay, au passage, pour les historiens. Et en fait, il est devenu chantre puis organiste à la basilique Saint-Marc de Venise, mais qu'à 35 ans. Ce qui, quand on voit d'autres compositeurs comme Jean-Sébastien Bach ou peut-être même Vivaldi, je ne saurais pas le dire avec assurance, mais souvent, c'était très jeunes, ils étaient déjà très investis. Lui a étudié la musique, il est vrai, mais il n'a pris les postes que petit à petit, progressivement. À 50 ans, il est appelé par l'électeur, le prince électeur de Saxe, à Dresde. Donc c'est la même région, si vous voulez, que la région de Jean-Sébastien Bach avec Leipzig. Jean-Sébastien Bach est un peu plus tardif, un tout petit peu plus tardif. Et là, il va composer des opéras, des pièces religieuses également, des messes. Il va être très remarqué. Et puis, il va revenir, après ces deux années, en Italie, à Vienne. Et là, il va devenir maître de chapelle 4 ans avant sa mort. Donc, il est mort à 73 ans. Donc, voilà, ça fait quand même, à 69 ans, devenir maître de chapelle. Notre actuel maître de chapelle à Saint-Nicolas est encore un peu plus jeune quand même. Mais ça fait quand même assez court, juste 4 ans. Et malgré ça, il a une musique qui est très variée, très vivante. Un côté peut-être assez dramatique, assez démonstratif dans ses pièces, peut-être plus d'opéra, moins les pièces religieuses. Mais ce qui est, les critiques disent qu'il a vraiment un digne successeur de Giovanni Gabrielli, qui était un siècle plus tôt à Venise, et dont d'ailleurs la chorale de Saint-Nicolas chante également du Gabrielli. Et il est très proche de la musique de la la musique renaissante, à l'issue du Concile de Trente. Et donc on retrouve chez Lotti, et c'est ça qu'il y a aussi, que M. Abbé Bilcock apprécie, et ce qui lui a permis de choisir, ce qui lui a du moins fait choisir ce compositeur. Il est très proche du texte, et dans sa musique, il y a une fusion entre la musique et le texte. Il exprime le sens du texte. Quand on chante, dans l'intonation, dans les accords, dans les sonorités, on sent tout de suite la douleur, la joie, tout est très, très bien exprimé.
Le texte n'est pas un prétexte à de la virtuosité gratuite, c'est ça.
On n'a pas de grand mouvement lyrique, du moins délirant, vous voyez. Le rythme est très réduit, il va avoir un petit trait, mais très réduit, pas de grand solo. C'est vraiment un chant de cœur, et c'est ça vraiment que nous apprécions, qui correspond vraiment à l'état d'esprit de ce que le Concile de Trente voulait pour la liturgie, pour le chant d'église.
Alors, frère Jean-Yves, puisque vous nous parlez si bien de Lotti, on va le laisser parler pour que les auditeurs puissent par eux-mêmes, on va offrir les premières mesures du Kyrie. Les auditeurs de Radio Courtoisie ont pu entendre ce fragment du Kyrie d'Antonio Lotti qui sera donné en concert spirituel. Cet extrait de la messe de Saint-Christophe. Antonio Lotti, dont le frère Jean-Yves, que j'ai la joie de recevoir cet après-midi, nous a dépeint la vie. Je donne tout de suite, bien sûr, des indications pratiques. Le concert est donné deux fois, le samedi 30 mai à 20h. Et le dimanche 31 mai à 15h30, l'entrée est libre. Il s'agit d'un concert spirituel. Ça n'est pas un concert dans une salle comme la salle Pleyel. C'est vraiment un concert spirituel, c'est-à-dire une offrande musicale, comme dit Rebac, offerte au maître des lieux. Et on n'applaudit pas. C'est une particularité. L'église reste une église, un lieu sacré. Il n'y a pas d'applaudissements.
Tout à fait. Du fait de la présence du Saint-Sacrement dans l'église, on n'applaudit pas dans les concerts, dans une église
exactement.
Où il y a le Saint-Sacrement.
Exactement. Alors, j'ai envie quand même de ma curiosité un petit peu piquée. Ça n'est pas un compositeur très connu. Comment est-ce que votre maître de chapelle a eu l'idée d'aller chercher cette messe de Saint-Christophe?
Oui, alors c'est vrai que ça n'a pas été une affaire facile de pouvoir remplir un concert qui durera une heure à Saint-Nicolas du Chardonnay. de remplir un concert qui va durer une heure avec les rares pièces de Loti que l'on trouve. Parce que de Loti, quelques pièces sont connues, hein, le Miserere de Loti est connu, mais en général, les gens ne chantent que la première page, sur les 14 pages, ça fait quand même pas beaucoup. Et donc même pour trouver la partition, ce n'est pas très évident. Et pour cette messe de Saint-Christophe, en fait, on chantait déjà le Crucifixus à 8 voix, qui est assez connu également, qu'on trouve beaucoup. Un Crucifixus, le texte montrait, ça fait partie du credo, c'est la partie du credo central, qui était crucifié, mort, était enseveli, voilà. Donc c'est la partie centrale du credo. Et M. Abbé Bilcock donc, a cherché de savoir à quel credo ça faisait partie. Il a fini par trouver le credo en fa, qui est assez connu, on trouve des enregistrements. Mais un credo tout seul comme ça, un compositeur ne composait pas un credo tout seul. En général, quand on compose un credo, c'est qu'on fait une messe. Ouais. On compose une messe. Une messe, quand on dit une messe, ça veut dire c'est les pièces du commun de la messe, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus. Et le Sanctus, on le divise en deux parties, Sanctus et Benedictus. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les messes, les compositions classiques en polyphonie qui se font. Donc, il fallait chercher à quelle messe faisait partie ce credo. Là, ça a été très compliqué. Finalement, il a fini par trouver que c'était la messe de Saint-Christophe. Il a réussi à trouver des partitions numérisées de cette messe de Saint-Christophe qu'il a dû donc entièrement ressaisir puisque ce n'était pas photocopiable en tant que tel, hein, en l'état, et puisque aucun éditeur ne vend cette partition aujourd'hui. Donc, c'était un travail assez compliqué. Et c'est là qu'on a pu commencer à travailler cette messe en septembre 2024, après qu'il ait déniché cela. Donc en fait, finalement, avec ce Miserere, qui était une pièce avec un assez riche au niveau caractère, assez peu souvent chantée en entier, donc on aime bien dans ces concerts du chœur de Saint-Nicolas, de faire découvrir des pièces qui ne sont pas tellement chantées.
Ce n'est pas toujours les quatre saisons, l'Alléluia d'Handel, d'accord, merci.
Et de là, l'idée de faire un concert sur Loti, avec une messe qui va durer, la messe de Saint-Christophe, c'est une grande messe, c'est pas fait forcément pour être chanté pendant une messe liturgique. Ça dure 30 minutes, cette partie du commun. Il faut trouver d'autres pièces, le Miserere lui-même fait 10 minutes. Après, il y a d'autres pièces qu'on connaît, la messe brève de Loti, on pourra en retoucher un mot, et le Gaude Maria également, qui vont se joindre pour former un programme d'une heure.
Alors, comme on a donné un petit extrait, on va en donner un autre, là. Vous allez nous dire, j'ai deux fragments de 30 secondes, et vous nous direz de quelle partie de la messe il s'agit. Donc, on va écouter, je vais demander à Axel de nous donner le deuxième extrait.
Donc là, c'est le début du credo. Donc voilà, du credo dans lequel il y a d'ailleurs le crucifixus. Hein, mais ouais. On a parlé tout à l'heure, donc c'est le début de ce credo, cette pièce qui est relativement connue, qu'on trouve en enregistrement, mais voilà, on ne trouve pas le reste de la messe.
Donc les mélomanes qui voudraient justement entendre la version intégrale de la messe de Saint-Christophe, là aussi, sont obligés de venir à Saint-Nicolas, parce qu'habituellement, ça n'a pas été enregistré, il n'y a pas un disque avec la messe de Saint-Christophe.
Je crois qu'on a un choriste qui a réussi à retrouver, grâce à un abonnement sur des sites payants, etc., un enregistrement qui a été fait quelque part, mais on ne trouve pas en libre recherche comme ça. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui... La messe de Saint-Christophe en entier, c'est quelque chose qui n'a pas été interprété.
Et même, on peut dire quand même, il y a la messe du pape Marcel, il y a beaucoup de messes qui sont très connues, les messes de la Sainte Vierge, bien évidemment. Saint-Christophe, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup, beaucoup de messes de Saint-Christophe.
Oui.
On sait, bien sûr, c'est le patron des automobilistes, mais Loti ne devait pas être concerné tout à fait.
Il a fait des grands voyages, alors peut-être que par les voyages, il a eu cette protection. pourquoi Saint-Christophe
là, j'aurais dit, j'ai pas messe de Saint-Marc, d'accord, il est vénitien, mais c'est pas le cas. Oui. Donc là, alors là aussi, c'est une autre raison pour venir. Tous les automobilistes qui trouvent que le prix de l'essence est un peu cher peuvent venir prier leur saint patron à l'occasion de cette messe de Saint-Christophe de Lotti. Donc je répète d'ailleurs les dates samedi 30 à 20h, dimanche 31 mai à 15h30 à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, c'est-à-dire 23 rue des Bernardins, dans le 5e arrondissement, tout près de la Mutualité, et au métro d'ailleurs, Maubert Mutualité. Alors, on écoute encore un petit extrait pour que vous me disiez de quoi il s'agit. Alors là,
c'est le Et Vitam qui est à toute fin du credo. Voilà, donc comme ça, on a le début et la fin du credo là que vous avez entendu.
Et si on veut entendre le crucifixus qui est au milieu, lui.
Ah, il faut venir. Il n'y a pas le choix.
Et effectivement, dans le, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des pièces qui sont scindées en deux. Là. On peut dire aussi que dans le credo, le Et Verbum, souvent, c'est une pièce particulièrement soignée aussi.
Oui, tout à fait. Et là, on a dans la messe brève également, hein, donc il y a la messe Saint-Christophe et la messe brève, ce qui est d'ailleurs la messe brève, je n'en ai pas tellement parlé, mais c'est vraiment une messe qui tient dans la liturgie. Ça veut dire que elle ne dure pas plus longtemps que les parties grégoriennes correspondantes. Hein. Le Kyrie de la messe brève dure aussi longtemps que le Kyrie de la messe 1 grégorienne. Voilà. Donc on pourrait l'abbé Milcock l'a dirigé d'ailleurs avec les élèves de l'école de Beach il y a une quinzaine d'années à Saint-Nicolas du Chardonnay quand il venait pour quêter pour l'école. Il ne savait pas qu'à l'époque il rechanterait 15 ans plus tard avec le chœur de Saint-Nicolas dont il serait le directeur. Mais oui, c'est... au milieu du credo, vous avez le Et Verbum caro factum est, qui en général est beaucoup plus lent. Oui. Et Lotti change vraiment l'harmonie à cet endroit. Il fait vraiment sentir de manière poignante l'incarnation. Dans le crucifixus, il va faire sentir la douleur. Vraiment, il fait entrer vraiment dans les sentiments de chaque texte. Gaudé Maria, ça va être la joie de louer la Sainte Vierge, mais en même temps avec le mystère de sa virginité perpétuelle. Qui fait que chaque phrase finit mystérieusement, doucement, délicate, alors que le début est très affirmé. On voit que c'est une musique très vivante, mais à la fois, Lotti sait également, des extraits qu'on n'a peut-être pas entendus, hein, mais être beaucoup plus recueilli, beaucoup plus intérieur. Alors, la messe brève, évidemment, va être plus intérieure, plus recueillie qu'une grande messe de Saint-Christophe, un côté beaucoup plus théâtral, on pourrait dire, ou du moins démonstratif.
Solennel, en tout cas.
Voilà, solennel. Oui. Donc, c'est vrai que ce serait qu'une image tronquée de Lotti de voir que sa messe de Saint-Christophe, même si c'est une belle, belle, belle œuvre.
Et alors, évidemment, la question complètement indiscrète, on sait déjà quel va être dans 2 ans le programme ou pas encore.
Monsieur Abbé Milcock a une petite idée.
Voilà.
Ce serait des pièces de Bach, mais la famille Bach, pas juste Jean-Sébastien, mais peut-être Jean Chrétien également.
D'accord.
Et d'autres frères, sœurs, neveux, de la famille Bach.
Et quand vous avez justement un concert comme celui que vous allez donner donc samedi 30 et dimanche 31 mai, ce concert, ensuite bien sûr, vous allez pouvoir en cours d'année reprendre telle ou telle pièce polyphonique pour une messe. Peu ce que vous allez faire en avant-première pour la messe du pèlerinage, là on pourra en cours d'année, pendant les 2 ans, entendre
tout à fait. Il y a certaines pièces qu'on pourrait dire qui rentrent dans le répertoire de la chorale. Alors évidemment, plus difficilement dans la messe de Saint-Christophe, quoique le Et Vitam, on l'a chanté déjà à Pâques, à la fin de la veillée pascale, à Pâques, pas cette année, mais l'an dernier. Voilà, puisqu'on a travaillé dans l'année 2024-2025 la messe de Saint-Christophe. On a commencé à travailler. Donc oui, il y a certaines pièces qui vont s'y prêter, qui vont pouvoir être chantées à un moment ou à l'autre de la messe, mais c'est clair qu'il y a certaines pièces du concert qui ne peuvent pas, en tant que telle, la pièce de la messe de Saint-Christophe se joue avec orchestre ou accompagnée à l'orgue. Là, il y aura un petit orchestre réduit pour cette...
Combien d'instrumentistes
Une dizaine.
Oui.
Hein, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le quatuor à cordes, hein, violon, alto, violoncelle. Oui, voilà, deux violons, deux pupitres de violon, alto, violoncelle. Et puis un orgue qui assure la basse continue. C'est vraiment la formation classique de l'époque baroque, ce qui évite de devoir solliciter trop de musiciens, parce que c'est aussi un coût, bien sûr, de...
Et là, ce sont des musiciens auxquels vous faites appel ou bien vous avez parmi vos paroissiens des musiciens ?
Il y a, je crois, une instrumentiste qui sera d'ailleurs une choriste, que M. Labbé détache de la chorale pour une nouvelle arrivée, hein, qui jouera une partie instrumentale. Mais sinon, c'est mélangé, c'est quelques professionnels également dont on a le contact par différentes personnes qui ne sont pas forcément du tout paroissiens de Saint-Nicolas. Qui viennent parfois pour la première fois, qui découvriront le chœur le vendredi soir pour la répétition générale. Donc voilà, mais c'est ça. Un petit ensemble, pas trop chargé, pour ne pas couvrir non plus le chœur, et donc pour cette messe de Saint-Christophe.
Et au fond, c'est ça. Au fond, 40 voix et 10 instruments,
oui.
C'est ça. C'est ce qui fait les choses effectivement tout à fait équilibrées.
Parce qu'on ne travaille pas une voix non plus dans le chœur de Saint-Nicolas, on ne travaille pas des voix d'opéra, donc ce n'est pas des voix... On chante avec une voix naturelle qui s'adapte à la liturgie, quand même, à la simplicité, la dévotion de la liturgie.
Et c'est bien pourquoi c'est un concert spirituel, c'est tout à fait ça. Alors, un grand merci, c'était passionnant, mais c'est normal parce que vous êtes passionné, semble-t-il. Et puis, on viendra vous entendre, vous écouter et vous apprécier. Le samedi 30 à 20h, le dimanche 31 à 15h30 à Saint-Nicolas.
Merci beaucoup. Merci,
je vous laisse donner votre place, si vous voulez bien, à mon invité suivant, qui nous intrigue parce qu'il est participant à l'université d'été Pâques Iuris, qui, comme son nom l'indique, est une université de juristes. Or, il n'est pas juriste, c'est ça qui est intéressant. Et j'avais dit d'ailleurs à celui qui dirige l'université que vous m'intéressiez, genre, tout spécialement parce que vous n'étiez pas juriste. Parce qu'il faut montrer que ça n'est pas réservé à des professionnels du droit qui lisent le Dalloz tous les soirs avant de s'endormir ou pour s'endormir, je ne sais pas. Bonjour plutôt.
Bonjour monsieur l'abbé.
Alors c'est vrai, vous êtes, on peut le dire, historien, mais ça vous intéresse. Qu'est-ce qui fait que vous allez là ?
Alors, je vais à cette université d'été Pâques Iuris depuis maintenant 3 ans, puisque c'est la 3e année cette année que se tient l'université d'été Pâques Iuris, et je fais partie, pour des raisons familiales, du staff, qui organise cet événement. Et j'avoue que si j'y allais pour rendre service, j'ai maintenant hâte d'y retourner pour la 3e fois, parce que je trouve ça passionnant, y compris pour quelqu'un qui n'est pas juriste. Et de fait, c'est une université d'été qui s'adresse à des étudiants en droit, mais aussi à des jeunes gens qui se posent la question, à un moment de leur lycée, des études futures et du sens qu'il y aurait à faire des études juridiques. Et on en a eu un certain nombre les années précédentes, et je crois qu'ils ont parfaitement suivi et ils en ont tiré vraiment de grands fruits.
Donc, vous récidivez, comme disent les juristes.
Exactement. Je récidive et je suis heureux de récidiver.
Alors, c'est intéressant. Alors, on va déjà donner les dates, le lieu. Ça a lieu à quelle date et à quel endroit ?
Alors, ça a lieu à Saint-Malo,
oui.
À l'école Sainte-Marie,
oui.
Qui est donc dans un cadre idyllique, pas très loin de Saint-Malo. Ça a lieu du jeudi 2 juillet au dimanche 3 juillet.
Peut-être même du dimanche 5.
Du dimanche 5, oui, oui. Voilà, du jeudi au dimanche, c'est près de Saint-Malo. Il y a une gare pour ceux qui viennent par le train. On organise des covoiturages pour ceux qui le souhaitent. Donc, les frais d'inscription sont réduits avant le 15 juin
à
70 euros. Donc,
il faut passer maintenant et vous inscrire tout de suite.
Voilà, il faut le faire tout de suite.
Très, très bien. Donc, on va essayer de présenter un peu cela. Je vois que le thème, c'est vrai que quand on voit le thème, on se dit c'est un peu austère. Mais vous allez justement nous rendre ça beaucoup plus agréable. C'est tout simplement les méthodes du droit. Alors qu'est-ce que... à chaque fois, c'est un sujet qui est en rapport avec la discipline juridique, c'est ça?
Oui, c'est exactement cela. Alors, le thème de cette année, les méthodes du droit, fait suite au thème de l'année dernière et au thème de l'année d'avant, où finalement on s'intéressait à ce qu'étaient les fondements du droit en première année, en deuxième année, quelles étaient les sources du droit, et maintenant la méthode du droit. C'est un vrai sujet, ce n'est pas du tout une question technique, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet assez profond même, puisque si j'ai bien compris, on va se demander s'il y a une science du droit, si le droit est une science purement déductive. Donc, il suffirait au juge à trouver le bon article du code et ensuite, par un simple syllogisme, trouver ce qui est juste pour rendre la justice. Et aussi bien la recherche actuelle en droit que la pensée pérenne de saint Thomas vont plutôt contre une telle conception du droit trop scientifique, de la méthode juridique trop déductive. Et le droit apparaît aussi bien chez saint Thomas que chez pas mal de chercheurs actuels qui sont très loin de lire saint Thomas, comme plutôt un art de la prudence. Alors ça peut aller jusqu'à une espèce de sociologisme total. Et alors là, c'est évidemment problématique, mais on voit que la question n'est pas simplement une question qui se poserait dans les sacristies pour des juristes catholiques, mais que c'est une question qui se pose à tout juriste de bonne volonté qui cherche à faire convenablement œuvre de juriste.
Alors, c'est vrai que je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie doivent tout de suite, à travers ce que vous dites, comprendre, parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est peut-être un droit qui est exercé de façon un peu étrange. Enfin, vous parliez tout à l'heure de sociologisme, mais vous aussi parlez de psychologisme, parce qu'il est évident que les coupables sont tous des victimes, enfin, de leur éducation, de la société, et ils ont toutes les circonstances atténuantes, et on se demande pourquoi est-ce qu'il existe encore des prisons. Enfin, mais on peut aussi, comme vous disiez, avoir une conception très positiviste, et on applique le droit, et là peut-être qu'une intelligence artificielle pourrait faire aussi bien qu'un juge.
Oui, oui, et bon, c'est une question à la fois très actuelle et très éternelle. C'est le fameux sumumius summa ignoria. Si on applique le droit avec une excessive rigueur, alors ce n'est plus le droit. Excessive rigueur, d'ailleurs, c'est une expression de Portalis qui met en garde contre l'excessive rigueur. Et d'après ce que disent les organisateurs avec lesquels je me suis longuement entretenu pour préparer ce passage à Radio Courtoisie, donc je vous remercie d'ailleurs encore, cette idée d'excès est contraire à ce que dit saint Thomas. Le droit est toujours une proportion, et tout le monde est d'accord pour le dire, mais il est difficile de trouver la bonne méthode pour établir cette proportion. Et donc le but de cette université d'été sera de réfléchir à la méthode pour trouver la bonne proportion. Parce qu'une fois qu'on a défini le droit comme une proportion, du point de vue pratique, on n'a rien fait. Voilà. Et donc le but est vraiment celui-là.
Donc il y aura un exposé sur Duralex, sed lex, nécessairement.
Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un exposé sur Duralex, sed lex. Voilà. Non, ce sera quelque chose de beaucoup plus
bien sûr. Oui, exactement, exactement. Est-ce qu'il y aura un exposé, là aussi, c'est un béotien qui parle, j'ai toutes les excuses du monde, est-ce qu'il y aura un exposé sur le jugement de Salomon? Parce que là, typiquement, il n'avait pas lu le Dalloz, lui.
Mais il était prudent. Alors, nous n'aurons pas d'exposé sur le jugement de Salomon, mais il y aura toute une série de conférences sur peut-on parler de science quand on parle du droit, et l'évidence et l'expérience amènent à répondre non. Alors, qu'est-ce que le droit? Le droit est un art de la prudence. Et il y aura toute une conférence justement sur la question de la prudence dans le droit, sur le raisonnement juridique. Ce qu'a fait Salomon sans avoir malheureusement, pour lui évidemment, suivi cette université d'été. pour nous aussi sans doute d'ailleurs, l'argumentation juridique, parce que c'est une question, l'argumentation juridique aussi. Salomon était face à ces deux femmes qui avaient chacune des bons arguments. Il faut choisir le meilleur argument. Alors comment faire pour choisir l'argument qui sera le meilleur des bons arguments qu'apportent les parties adverses. Voilà, et donc ce sera quelque chose qui sera aussi abordé lors de ces conférences. Alors c'est des conférences qui sont peut-être un peu théoriques, présentées comme ça, mais l'idée n'est pas du tout de faire une université d'été de philosophie du droit ou une introduction méthodologique au droit ou un colloque universitaire autour des méthodes du droit. Le but est, pour des jeunes gens qui aujourd'hui ont 17 ans, prépare à des études dans le domaine juridique, que ce soit faire son droit de façon classique ou d'autres choses qui font appel au droit, ou des étudiants qui sont plus ou moins avancés dans leurs études, qu'ils réfléchissent. Donc nous n'allons pas nous substituer aux excellents cours qu'ils reçoivent dans leurs universités, là n'est pas la question, mais qu'ils prennent un peu de hauteur par rapport à ces cours qui sont marqués souvent par un positivisme juridique qui ne les amène pas à réfléchir à ce qu'est le droit, ce qu'est le juste. Donc voilà, prendre un peu de hauteur, prendre de la hauteur, un éclairage, et réfléchir à ce qu'on fait en cours. Donc au-delà de ces conférences, nous aurons des présentations de cours et nous aurons enfin des présentations de métiers, parce que le droit, c'est une prudence, la prudence est faite pour être appliquée, et donc il y aura tout un aspect pratique, oui, dans cette université d'été, comme les années précédentes, mais avec d'autres intervenants, pour que celui qui reviendrait pour la troisième fois, puisque nous avons déjà des habitués, à partir de 2 ans, ce sont des habitués, à partir de 3 ans, ce sont des vieilles connaissances, n'est-ce pas ? Et pour que ces habitués trouvent des choses nouvelles pour nourrir encore plus leurs réflexions.
Alors, on va redonner, parce qu'il faut être pratique, comme vous le disiez, on va redonner et les dates et le lieu dont vous nous disiez qu'il était idyllique, et vu le lieu que vous avez cité, ça, idyllique et iodé, à mon avis, ça doit être très sympathique. Il y a une soirée galette ou pas?
Alors, puisque la question est celle de la nourriture, je pourrais vous en parler, mais il faut que je rappelle donc du jeudi 2 juillet au dimanche 5 juillet, le lieu, l'école Sainte-Marie près de Saint-Malo, donc la gare et la Gouesnière, ou de préférence la Gouesnière, à vrai dire pour des raisons pratiques, ou bien la gare de Saint-Malo, mais il y a aussi des possibilités de covoiturage. Vous avez tout ça sur le site pax-iuris avec un i.fr, pax-iuris.fr, alors c'est le tiret de Quadratin, c'est le petit tiret.
Voilà, tiret d'en haut, si on veut.
Voilà, le tiret d'en haut.
Donc, je vais carrément l'appeler P-A-X, tiret d'en haut, I-U-R-I-S.fr. Et là, donc, on a tous les renseignements. Mais on n'a peut-être pas le menu.
Voilà, alors le
menu. Si, on a le menu intellectuel, mais la grâce ne détruit pas la nature.
Alors, les années précédentes, je crois que personne ne s'est plein de la nourriture. Nous avions un cuisinier formidable et nous n'entendons pas descendre d'un cran dans cette qualité de l'hébergement, parce que c'est le but est aussi de créer un moment de convivialité pour que les étudiants parlent avec des professionnels, ce qui est parfois très éclairant, qu'ils discutent entre eux, qu'ils se forment des amitiés, etc. Alors, sans trahir un secret, je peux dire que deux étudiants de cette université d'été se sont mariés. Alors, peut-être se connaissaient-ils avant l'université d'été où nous les avons vus ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est très agréable. C'est une ambiance où on a le temps de faire du sport. Il fait beau à Saint-Malo. C'est vraiment, c'est tout à fait intéressant. On va faire, je crois, plutôt une veillée histoire de varier les plaisirs, une veillée commune plutôt qu'une expédition à Saint-Malo ou à Dinard,
des remparts,
puisque c'est quelque chose qui est un peu convenu. Donc voilà, donc il y aura des moments de détente et aussi ce qui est très important, nous avons la chance d'avoir un prêtre juriste qui célébrera la messe tous les jours, et donc il y aura le chapelet, la messe, ce qui permet de bien équilibrer sa journée.
Parce que comme vous disiez, ça n'est pas réservé aux professionnels du droit, mais tous ceux qui se trouvent là ont l'intention de réfléchir au rapport entre, si j'ose dire, la loi et leur foi. Enfin, c'est ça.
Oui, 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 il y a l'aspect complément de formation. Donc voilà, on ne se substitue pas à l'université, loin de nous vraiment toutes ces... Mais on essaie d'apporter des éléments pour prendre de la hauteur. Et puis, en tant que catholique, on réfléchit à la grandeur de vocation, de la vocation de juriste, parce qu'il y a une façon catholique d'être juriste. Alors, c'est quelque chose quand même de spécifique,
oui.
Puisque chaque profession a son but. Voilà, je suis dans le commerce, je dois être honnête, mais si je suis juriste, je dois chercher le juste, et chercher le juste, ça demande une réflexion, ça demande une certaine assaise. Voilà, je ne vais pas, on ne va pas méditer les mercuriales de Daguesseau. Voilà, ce ne serait pas le lieu. Sans doute serions-nous un peu ridicules, voilà, devant cette grandeur de l'éloquence des juristes de l'ancien temps. Mais vraiment, il y a, je crois, il y a un devoir des catholiques qui sont dans les métiers du droit de ne pas considérer cela simplement comme un gagne-pain, mais aussi voilà, comme une vocation.
Je crois que c'est ce qui se pose comme question aussi, par exemple, à des médecins. Est-ce que je suis médecin en semaine et catholique le dimanche à 10h? Est-ce que j'oublie tout ce qui fait ma raison d'être sur le plan spirituel lorsque j'exerce ça? C'est la même chose ici, je dirais, pour un avocat, pour un juge. Est-ce que je suis complètement païen 6 jours sur 7 et le 7e jour, je me souviens que je suis chrétien? Ces questions-là se posent nécessairement, parce que, comme vous le disiez, si on pouvait se contenter d'appliquer de façon quasi mécanique le droit, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le cas du tout. Il y a des destinées derrière, destinées humaines. C'est une responsabilité, j'imagine. Enfin.
Oui, alors les organisateurs ont eu une très bonne idée que j'ai beaucoup appréciée personnellement, c'est de présenter des cas de conscience. Un cas de conscience qui a été présenté, je crois, l'an dernier, qui était passionnant, de la cas de conscience de l'avocat. Et là, il y aura une présentation de la profession de magistrat, mais aussi un cas de conscience du magistrat. Voilà. Parce que bon, quand on est face à un cas de conscience, il est un peu tard pour réfléchir aux moyens de droitement s'en tirer. Il vaut mieux y avoir réfléchi quand on est jeune, quand on fait ses études de droit, quand on a quelques bons principes, me semble-t-il. Et voilà, donc si vous voulez, quand cette université d'été a été créée, les amis qui ont organisé ça se sont dit, je vais parler de tout ce que j'aurais voulu entendre parler à l'université.
Ça, c'est bien. Oui, donc il nous reste 8 minutes, donc on a le temps de revoir encore un tout petit peu cette université d'été, dont je redis tous les renseignements et l'inscription qu'il faut faire, comme nous le disait Jean à l'instant, avant le 15 juin, si on veut bénéficier d'un tarif préférentiel. Elle a lieu donc du 2 au 5 juillet à l'école Sainte-Marie à Saint-Père, Marc Ampoulet, c'est en Bretagne, comme le nom l'indique. Et le tarif, donc, c'est
70€ avant le 15 juin et 85 après.
Alors voilà, donc c'est quand même... Et c'est tout compris avec ça.
C'est tout compris.
C'est ça.
Une nourriture de rêve,
voilà,
un lieu d'exception, des conférences extraordinaires.
Voilà. Tout. Donc il faut faire cela maintenant. Et on peut donc justement ou envoyer un courriel à l'adresse suivante, j'ai ça sous les yeux, contact, bien sûr au singulier, pax-iuris.fr, et puis aller tout simplement sur le site de Pax Iuris, donc la même adresse, pax-iuris.fr. Et est-ce que, une fois que ça a lieu une fois par an, est-ce qu'il y a des contacts entre les juristes qui se sont retrouvés, ou tout simplement d'ailleurs ces étudiants de 2-3 jours. Est-ce que vous gardez le contact? Est-ce que des amitiés, bien sûr, se nouent, mais est-ce que sur le plan, j'allais dire, professionnel ou sur le plan intellectuel, universitaire, est-ce qu'il y a une vie après l'université d'été?
Alors, il est certain qu'il est très difficile de revenir à la vie normale après une telle université d'été, mais malgré tout, c'est une tâche à laquelle tout le monde s'emploie. Et il y a une lettre qui circule, voilà, pour garder le contact. Je sais qu'il y a un certain nombre d'endroits où des contacts se sont créés, puisque ce sont des jeunes gens qui viennent de toute la France, même si c'est la Bretagne. Il est plus facile de venir depuis l'ouest de la France, mais malgré tout, on a des gens qui viennent parfois de fort loin. Et donc, voilà, il y a des amitiés qui se sont forgées. Donc, le but est vraiment de créer un endroit et un moment où des gens qui vont exercer des métiers assez similaires puissent se découvrir en même temps qu'ils vont découvrir la matière.
Alors, je veux dire, on peut peut-être juste regarder, vous avez la présence d'un prêtre qui est prêtre et juriste, donc vous avez votre journée qui commence par la messe, mais on peut entrer aussi dans quelques-unes des conférences. Là, je vois dès le jeudi 2, la première conférence, c'est droit et science, une science du droit est-elle possible? Vous l'avez déjà un peu évoqué. Ensuite, il y a, et là vous pouvez peut-être faire l'article, l'imposture du positivisme. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette conférence?
Alors, bon, évidemment, je ne sais pas ce qu'il y aura et j'attends avec impatience, mais le titre, me semble-t-il, résume ce qui va être son contenu. L'idée du positivisme juridique, c'est que le droit est comme une science qu'on pourrait, enfin en tout cas c'est la façon dont nous allons concevoir le positivisme juridique cette année, et qu'on pourrait simplement déduire des articles du droit ce qui est le juste. Et c'est faux parce que les jugements qui sont rendus de façon mécanique de cette façon sont des jugements catastrophiques, et tout le monde le sait. Alors que faire? Que faire face à ce positivisme qui est attaqué, si j'ose dire, à la fois par l'avant et par l'arrière, attaqué dans ses fondements? Et ça, c'est la critique au nom de la philosophie de Saint Thomas, en fait, voilà, qui est largement la pensée d'Aristote, d'ailleurs, et qui est attaqué aussi par ses conséquences. Et là, je vous parlais du sociologisme juridique, et il est certain, même si on ne doit pas tout déduire du milieu social, qu'il faut faire la part du milieu social, de la culture, de l'endroit dans lequel tel ou tel geste a eu lieu pour en juger sainement. Et ça, l'application positiviste des articles du Code ne permet pas de le faire. Ouais. Donc voilà, donc, cette conférence montrera un peu le panorama. Voilà, le positivisme qui est dominant, il suffit d'ouvrir la porte d'un amphithéâtre dans n'importe quelle faculté de droit en France, et on tombera sur un cours qui est fondé, sans le dire, hein, sur les doctrines du positivisme, les positivismes juridiques, parce qu'il faut peut-être employer le pluriel à leur endroit. Donc, essayer de dresser un état des lieux, et ensuite voir quelle peut être l'alternative, comment on peut sortir du positivisme en développant un bon raisonnement juridique, et voilà, en distinguant entre les bons arguments juridiques et les moins bons, etc. Et donc, ce sera cette démarche du plus général au plus particulier qui sera l'esprit de cette université d'été.
Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'êtes pas que dans la critique, c'est-à-dire que vous avez aussi le souci de proposer des principes qui offriraient des solutions, et vous allez les chercher dans le réalisme thomiste, aristotélico thomiste. Enfin, donc, on ne sort pas déprimé de votre université d'été en disant il n'y a plus rien à faire, tout est perdu.
Alors, il me semble, d'après tout ce que j'ai vu, c'est que les intervenants sont soit des universitaires, soit des praticiens, et ils ont en commun un amour du droit qui fait qu'ils veulent organiser, si j'ose dire, gratis pro deo, cette université d'été sur un temps pris à leur recherche, à leur famille. Mais il s'agit de choses qui leur tiennent à cœur parce qu'ils trouvent qu'il y a un manque et ils aimeraient combler ce manque et ils aimeraient en parler. Voilà. offrir le meilleur possible aux jeunes gens catholiques qui sont les juristes catholiques de demain. Et ça, c'est vraiment le but. Alors, partant de là, si on est universitaire, on croit à ce qu'on fait à l'université, on envoie les petits côtés, mais on envoie aussi la grandeur. Et je ne pense pas qu'il y ait le moindre des intervenants qui soit là pour dire que tout est fichu, etc. Et loin de là.
Ouais. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était très pratique. J'en donne tout de suite un échantillon. Présentation d'un cours, c'est le droit des contrats. Donc, on n'est pas dans les nuées. Je vois ensuite présentation du métier de responsable de la commande publique dans une collectivité. Moi, j'enverrais bien quelques personnalités dont la presse a parlé récemment, qui auraient peut-être des leçons à recevoir. Donc, c'est dire que c'est très utile. Je vois qu'il y a une présentation de la librairie. Donc, vous avez le souci de donner une bibliographie et on peut l'emporter. Il y a une conférence sur Saint Raymond, patron des canonistes. Et là, je ne donne que le vendredi 3 juillet. Je laisse deviner ce qu'il y a encore le lendemain, le samedi et le dimanche. Tout ça est d'une grande, grande richesse. Les journées, comme vous disiez, c'est dans une atmosphère conviviale, mais c'est dense. Enfin, on apprend beaucoup.
Oui. Et si j'ose dire, puisque je ne suis pas juriste, je peux dire réellement ce que je pense. Je ne suis pas partie prenante, en fait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment dans la vie de Saint-Augustin où il se retire près du lac de Côme, au Cassiciacum, où il lit Platon avec un groupe d'amis, un groupe de famille, et il se prépare au baptême, il réfléchit, il écrit ses grands traités. On définit ça comme l'ossium de Saint-Augustin. Bon, évidemment, c'est parfaitement exagéré de comparer cette université d'été à cela, mais c'est malgré tout l'idéal vers lequel nous tendons.
Eh ben c'est le mot de la fin, il est superbe. Je vous remercie infiniment, Jean, et je vous souhaite une très très belle université d'été. Je rappelle tout simplement, alors, le site, c'est pax-d'union-iuris.fr. Vous avez tous les renseignements, mais inscrivez-vous vite avant le 15 juin pour profiter d'un tarif intéressant. Chers amis de Radio Courtoisie, merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 15 jours, mais ça sera une émission du soir, alors.
Vous venez d'entendre le libre journal des traditions d'Alain Laurent, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le 21 mai 2026 de 14h à 15h30 et réalisé par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.